Bonjour Sylviane Agazinski.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages s'intéressant à la place des femmes dans la société, dont notamment « Corps en miettes ». Nous avons entendu il y a quelques instants le sujet de Catherine Pétillon consacré à la journée mondiale du droit à l'avortement. Lorsque vous entendez les résistances qui se font jour ici en France et un peu partout ailleurs, qu'est-ce que ça suscite en vous ?
De l'étonnement d'une part, on pouvait penser il y a quelques années que c'était des choses tout à fait acquises dans nos sociétés, et une espèce de colère d'autre part, parce que quand on se souvient des luttes pour la contraception d'une part, pour l'accès à l'IVG d'autre part, on se souvient que le slogan des femmes à ce moment-là, j'ai défilé aussi dans les années 70, c'était « notre corps, nous-mêmes ». Alors ça ne voulait pas dire « notre corps nous appartient » au sens où on pourrait en disposer comme d'un objet, comme disent certains philosophes. On n'arrive pas en disant « me voici et je viens avec mon corps ». Mon corps, c'est nous-mêmes au sens où c'est notre chair vivante. Et c'est aussi pour cette raison que la grossesse étant ce qu'elle est, elle est vécue physiquement, charnellement, psychologiquement, moralement par des femmes, et que la décision ou pas d'avoir un enfant à tel ou tel moment doit leur revenir entièrement. Et je rappelle aussi que ça a été un vote transpartisan, si j'ose dire, cette IVG, parce que le combat a été mené par Simone Veil, mais sans les voix de la gauche à l'époque, ça ne serait pas passé, on ne le rappelle pas toujours.
Aujourd'hui, lutter contre les messages hostiles au droit à l'avortement, est-ce que cela relève de la salubrité publique, ou bien est-ce que c'est une entrave au délit de libre expression, Sylviane Agazinski ?
Non, je crois que c'est tout à fait, nécessaire. On ne peut pas accepter dans une démocratie, une république comme la nôtre, de laisser purement et simplement, librement, s'exprimer une propagande contraire aux droits qui existent dans notre pays. Il y a une liberté d'expression, certes, mais cette propagande, il est salutaire de lutter contre.
Et puis, toujours dans l'actualité, le féminisme aujourd'hui se voit adresser de nouvelles questions, notamment suite aux différentes polémiques relatives au voile islamique, relatives au foulard et au burkini. On écoute le Premier ministre Manuel Valls décrivant Marianne.
Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République, c'est ça Marianne, c'est ça ce que nous devons nous toujours porter.
Le voile, c'est un nouveau défi pour le féminisme, Sylviane Agazinski.
Oh, c'est un défi beaucoup plus vaste encore que pour les féministes. C'en est un pour les féministes, mais c'en est un beaucoup plus vaste au sens où c'est un retour complètement inattendu pour nous, pour nos générations, pour notre société, d'une religiosité intégriste, fondamentaliste, qui est extrêmement étonnant. Pour moi, je trouve que c'est un problème très compliqué. Parce que quand je vois à côté de moi des femmes voilées de la tête aux pieds, alors encore plus le voile proprement intégral, hein, c'est-à-dire non pas le hijab ou le tchador qui laisse voir le visage, mais par exemple la burqa, on n'en voit pas en France, comment s'appelle-t-il l'autre, je ne trouve plus le nom.
Enfin, les différentes formes de voile, en tout cas.
Le voile proprement intégral, si vous voulez dire, le niqab, je voulais dire le niqab, ceux qui sont portés par notamment des courants tout à fait intégristes de l'islamisme, tout à fait radicaux. Évidemment, ça me tord les boyaux. Mais en même temps, il faut essayer aussi de comprendre de quoi il retourne et pourquoi ça nous tord les boyaux. Ça nous tord les boyaux parce que, d'abord, c'est une extraordinaire régression à des formes anciennes de religiosité, mais on oublie un petit peu trop souvent que, c'est un point important, que le niqab, c'est-à-dire le voile intégral, qui ne laissait voir qu'un œil au IIe siècle, selon les témoignages de Tertullien, est d'origine païenne, 5 siècles avant l'islam. On oublie un peu aussi que la religiosité chrétienne s'est exprimée avec des tonnes de livres et pendant plusieurs siècles, entre saint Paul et saint Augustin, pour obliger les chrétiennes à porter un voile, certes pas un voile intégral, mais qui couvrait évidemment les cheveux. Et qu'on vient de là aussi, c'est-à-dire quand saint Paul dit le chef de l'homme, c'est Dieu, et le chef de la femme, c'est l'homme. il y a toute une littérature là-dessus, et la femme ne doit pas parler en public, etc. On vient quand même de là, si bien que l'impression qu'on a aussi, c'est une espèce de gigantesque anachronisme. Alors ça, c'est un point, donc on a l'impression aussi d'une régression. Mais peut-être faut-il comprendre aussi que l'histoire n'est pas linéaire et qu'il y a des formidables anachronismes. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'abord, en tant que philosophe, de ne pas faire trop de confusion. D'abord, on a réglé en France le cas du voile proprement intégral, du tchador et de la burqa, par la loi de 2010, et l'avis du Conseil d'État, c'est-à-dire on ne peut pas cacher son visage en public. D'autre part, pour le reste, il faut prendre en compte le fait que il y a une toute petite minorité de salafistes et d'intégristes qui exigent des femmes ou dont les femmes choisissent de se voiler quasi intégralement. C'est une très petite proportion des musulmans par rapport aux musulmans qui dans le monde et dans notre pays sont tout à fait, j'allais dire, classiques, sans parler de tous les gens de culture d'origine de culture éventuellement musulmane, d'origine maghrébine par exemple, et qui ne sont pas du tout pratiquants, qui ne sont pas plus pratiquants que la plupart des chrétiens en France. Donc, il faut, je dirais, ni banaliser la question du voile, ni la dramatiser. Parce que, en fait, ce qui me frappe beaucoup, notamment en écoutant les témoignages des femmes qui se voilent, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu notamment des enquêtes faites sur votre antenne qui étaient tout à fait passionnantes. C'est qu'on a affaire aussi à un phénomène générationnel. Ce sont des jeunes. Hein, leur mère ne se voilait pas, elle se voile. Un phénomène identitaire, c'est-à-dire on se rattache à une certaine culture, à une certaine tradition, mais aussi on a une aspiration religieuse. Cette aspiration religieuse, on veut l'exhiber, c'est-à-dire qu'il y a une revendication identitaire et de croyance, parce que le paradoxe du voile, c'est qu'il cache le corps de la femme et qu'il exhibe de manière plus qu'ostentatoire une certaine croyance, une certaine pratique et un rattachement à une certaine culture et donc à un certain groupe. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a là-dedans quelque chose qu'on n'avait plus imaginé. Alors, faut-il l'appeler servitude volontaire ? Je ne sais pas. Mais qui est un besoin d'autorité suprême, de renoncement, de sacrifice. Qu'est-ce qu'elles disent, toutes ces femmes ? Elles sont contentes de sacrifier, elles sont contentes aussi d'obéir à leur mari. Alors, la conséquence, c'est quand même que pour nous, on s'interroge sur la compatibilité de communautés aussi intégristes, et je ne parle que des communautés intégristes et fondamentalistes, avec effectivement les droits des femmes ici, l'égalité des sexes. C'est pas si facile à concilier avec notre droit qu'on avait pu le dire ou qu'on peut le dire des religions pratiquées normalement et qui s'intègrent complètement dans la laïcité.
Et sur le burkini, Sylviane Agacinski, est-ce que tout cela méritait une polémique ? Est-ce qu'il faut une loi selon vous ?
Non, le burkini, à mon avis, c'est un épiphénomène. Le burkini, ça a permis à des femmes voilées d'aller se baigner quand même, faut pas l'oublier. Bon, ça nous choque un peu aussi, mais là aussi, ne pas banaliser. Le burkini, comme le voile intégral, n'a rien à voir avec une tenue comme une autre, pas une tenue d'un sportif, on a comparé, ou tenue d'un professionnel. Non, c'est complètement absurde. Le burkini a le même sens que le voile incomplet, j'allais dire, complet qui laisse voir le visage. C'est un petit peu le même sens. Donc, il faut replacer ça, c'est à cause du contexte aussi. C'est-à-dire qu'il y a une intolérance du regard de tout un chacun à l'égard de signes ostentatoires d'une religiosité dont je rappelle, dans ses formes intégristes extrêmes, compte tenu aussi du contexte du terrorisme, puisqu'il y a une petite partie des salafistes qui sont aussi des djihadistes et des combattants et qui voudraient instaurer partout une société sous la loi de la charia. Donc les Français sont très sensibles, c'est vrai, à ça. Ils sont un peu écorchés parce le vêtement n'est pas seulement le signe de la religiosité dont je parlais tout à l'heure, mais il peut aussi apparaître comme un drapeau de propagande, d'une certaine manière, pour une certaine conception de la vie, de la forme de vie, de la religiosité et du rapport homme-femme.
Mais alors, ce qui change complètement la donne, Sylviane Agacinski, c'est que d'un côté, on a l'hostilité de l'extrême droite au droit à l'avortement. Nous avons débuté notre entretien là-dessus. De l'autre, les questions du voile, les questions également liées par exemple aux incidents de Cologne en Allemagne ou lors de la Saint-Sylvestre, des hommes qui a priori étaient sinon des migrants, en tout cas des musulmans auraient agressé des femmes, eh bien tout cela fait que l'extrême droite peut devenir non seulement le défenseur de la laïcité, mais aussi le défenseur d'une certaine forme de féminisme. Qu'est-ce que ça vous donne à penser ?
Non, ça me donne à penser qu'il faut là aussi faire très attention. Les violences sexuelles faites aux femmes, elles n'ont jamais eu de pays privilégié et elles ne sont pas plus le fait d'un peuple que d'un autre, sauf dans certaines circonstances, comme les guerres, probablement que les mouvements de migration. Il ne faut pas minimiser, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas simplifier surtout. Moi, je suis assez sensible au fait que nous n'avons pas non plus de leçons complètement à donner à d'autres formes de culture. Et là, je ne parle pas de l'extrémisme intégriste, mais des religions en général. Je n'aime pas trop les formes de laïcité qui méprisent et qui salissent finalement les religions. Elles me semblent en elles-mêmes respectables. Pas les extrémismes et pas la violence. Mais où je dis qu'on n'a pas forcément des leçons toujours à donner, c'est qu'il faudrait peut-être regarder du côté de nos pays occidentaux, les Français, les Européens, les Américains par exemple, concernant des nouvelles formes de violence faites aux femmes. Des nouvelles formes et formules d'aliénation des femmes, je pense à des choses très, très évidentes, comme après le fait que les femmes se soient émancipées en disant, ben voilà, notre corps c'est nous, on décide de notre vie, de notre désir, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des marchés du corps humain, dont les marchés du corps féminin, de la chair de la femme, qui se développent et qui sont défendus par un certain nombre, par exemple, de pseudo-féministes qui disent « Mais si les femmes consentent à entrer sur le marché du sexe, si les femmes consentent à vendre leurs ovocytes, à louer leur ventre pour faire un enfant, à louer un nouveau-né, pourquoi pas ?» Alors là, on a une espèce de pseudo-féminisme libertarien, je dirais, qui appuie tout sur le consentement et qui ne voit pas les systèmes organisée de marchandisation du corps féminin, système organisé de la prostitution, beaucoup plus organisé encore qu'avant, hein, avec les traites, où ce sont toujours des femmes d'ailleurs d'étrangers en France qui sont les plus touchées par ces traites et par les proxénètes. Et puis surtout, un thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé, auquel je me suis beaucoup intéressée et à propos duquel je continue de militer, notamment au sein d'une association qui s'appelle Le Corps, collectif pour le respect de la personne, mais avec d'autres associations comme la CLF, comme la CADAC et comme presque une cinquantaine d'associations féministes, c'est le marché organisé de la location des ventes, qui est un marché, ne l'oublions pas, quasiment néocolonial. Et regardez une carte, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des populations riches qui vont utiliser le corps de femmes pauvres ou des populations qui, dans un même pays comme aux États-Unis, utilisent le corps des femmes les plus vulnérables et qui les payent, dans la mesure où même le dernier rapport du Conseil de l'Europe a montré que 98 à 99% des transactions pour acheter un bébé, il n'y a pas d'autre mot, étaient commerciales. Donc il n'y a pas de GPA, pour dire le terme, il n'y a pas de GPA non commercial, c'est un leurre, c'est un mythe.
Et sur le plan social, Sylviane Agacinski, en matière d'inégalité de salaire, en matière de sexisme, que reste-t-il encore à faire en France ?
Là, vous avez donné vous-même la réponse. L'égalité des salaires n'est pas encore acquise.
Ça, la France est particulièrement mal placée à cet égard.
C'est vrai, elle a beaucoup progressé à propos de la parité, sur le thème de la parité en politique. On n'est pas encore, on est encore mal classé, hein, parce que on est encore au Parlement dans les 25, autour de 25% de femmes. Mais enfin, en 1997, on était à 5% à peu près, hein. Donc les progrès se sont faits. La question, c'est l'égalité des salaires. Le principe en est complètement acquis, si vous voulez. Simplement, là, dans la pratique, la réalisation, il y a toujours des résistances.
Et ces résistances, est-ce qu'il faut les vaincre par la loi ? Alors, en matière donc d'inégalité salariale, il y a bien entendu des lois. En matière de répartition équivalente dans les différents métiers, il y a eu des quotas. Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'on insiste sur cette logique-là ?
Oui, je pense qu'elle a marché jusqu'à présent. Pour la parité, on n'était pas pour les quotas et c'était pas une bonne expression parce qu'on avait l'impression qu'il s'agissait de promouvoir des femmes parce qu'elles étaient des femmes et pas en fonction en quelque sorte de leur talent ou de leur mérite. Alors qu'en réalité, il y avait naturellement la quantité de femmes suffisante pour partager en quelque sorte les responsabilités politiques et autres, parce que la parité, ça concerne tous les domaines. Mais je pense qu'un peu de volontarisme ne nuit pas dans la mesure, là aussi, où il y a des résistances, où il y a des pesanteurs. Alors, faut-il des quotas ? C'est pas forcément indispensable.
Une dernière chose sur la théorie du genre. Est-ce que, là aussi, vous pensez que ce qui a été dit au sujet de cette théorie, à l'encontre de cette théorie, méritait de susciter la polémique qui a eu lieu?
Non, mais d'une part, il n'y a pas la théorie du genre. Il y a énormément de travaux très anciens en sociologie, en anthropologie sur le genre, qui veulent dire quoi? Qui veulent dire simplement que il y a des hommes et des femmes parce que nous sommes des êtres vivants, si vous voulez. Et puis ces hommes et ces femmes, ils sont partie intégrante de sociétés qui organisent les relations sociales de sexe, comme on a dit, de manière très différente, et qui, ça c'est l'universalité en quelque sorte de la subordination des femmes, et qui ont toujours valorisé le masculin par rapport au féminin. Je me rappelle de Lévi-Strauss qui disait cette jolie remarque, il disait « Toutes les sociétés, notamment primitives que j'ai vues, considéraient les femmes comme le sexe dangereux. » Il disait c'est. Et donc, qu'est-ce qui a été le but des hommes dans toutes ces sociétés? Pourquoi dangereux? Parce qu'à cause du pouvoir maternel, ça a été de s'approprier ce pouvoir maternel. Alors jadis, les hommes se le sont appropriés par le mariage traditionnel et patriarcal. Maintenant, je n'aimerais pas qu'ils s'approprient le corps des femmes par le commerce et des marchés.
Merci Sylvia Nagasinski de nous avoir exposé ces nouveaux combats féministes, d'avoir dressé un bilan avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Corps en miettes chez Flammarion.